Bonjour et bienvenue à Joy au pays des droits de l'homme. Au cours de cette émission, nous avons eu l'habitude de recevoir des juristes et des avocats pour parler des questions liées aux droits de l'homme en rapport avec la Cour européenne des droits de l'homme et notamment sur la question des droits civils et politiques. Ce dont nous avons un peu moins parlé, ce sont les droits économiques et sociaux. Et c'est également un volet important dans les droits de l'homme. Aujourd'hui, mon invitée, Maître Grace Favrel, est une avocate spécialisée dans les droits de l'homme et elle traite à la fois des questions de droits civils et politiques et des questions de droits économiques et sociaux. Maître Grace Favrel, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté de répondre aux questions. Alors, avant de parler des affaires, je voudrais évoquer un petit peu votre parcours. J'ai vu que vous êtes juriste depuis de nombreuses années et un petit peu plus récemment, vous êtes devenue avocate. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ce virement vers la profession d'avocate?
Oui, alors effectivement, j'ai créé mon cabinet il y a environ 4 ans et bien évidemment, j'ai souhaité travailler sur les questions de droits de l'homme parce que j'avais orienté mon cursus universitaire dans ce sens et j'ai travaillé, comme vous l'aviez dit auparavant, dans des organisations internationales sur ces questions-là. Pourquoi est-ce que j'ai souhaité devenir avocate ? Peut-être pour avoir un impact un peu plus direct sur les gens. Et les aider plus directement, plus concrètement, donc apporter des réponses. Alors effectivement, on ne peut pas aider tout le monde, mais c'est vrai qu'en tant qu'avocate qui travaille particulièrement sur ces questions, on a parfois la possibilité d'impacter de manière très positive la vie des gens, d'éviter de très très graves conséquences, et c'est assez réjouissant.
Tout à fait. J'ai vu qu'en 2019, vous aviez participé à un concours de plaidoirie des élèves avocats et vous avez évoqué notamment le cas d'un jeune mineur à Metz. Ouais. Quelles ont été les retombées de cette plaidoirie-là?
Alors, les retombées d'un point de vue personnel, elles ont été très positives hein, parce que beaucoup de personnes connaissent le concours de plaidoirie de Caen, qui a une très très forte renommée. Sur le plan de du jeune garçon hein, qui était mentionné, les retombées n'ont pas été forcément immédiates. Il n'a pas eu sa solution réglée immédiatement, mais c'est vrai qu'il a quand même pu trouver quelques solutions par la suite.
Et cela a peut-être permis une certaine prise de conscience de ce problématique.
Oui, j'ose espérer, même si il faut quand même rappeler le travail d'autres personnes qui, pour le coup, m'ont alerté de sa situation pendant plusieurs années et bien avant ma plaidoirie. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'avais été informée de ce cas-là.
Ok, alors j'ai noté plusieurs publications dont vous êtes l'auteur, à la fois en anglais et en français. Alors, peut-être pourriez-vous dire comment cela se fait que vous soyez bilingue?
Oui, je suis bilingue parce que j'ai travaillé pendant plusieurs années en Grande-Bretagne.
D'accord.
Oui, et j'ai été aussi amenée à travailler dans des pays anglophones pendant ma carrière.
Ok, très bien. J'ai vu que vous avez publié notamment en anglais sur la question des lanceurs d'alerte. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il retourne?
Alors, la question des lanceurs d'alerte, c'est une question qui est très importante. Et notamment, on le voit en ce moment sur la question des lanceurs d'alerte liés à l'environnement. On voit que ces personnes-là sont ciblées, qu'elles font souvent l'objet d'attaques, parfois d'agressions, mais également de poursuites en justice qui sont totalement infondées pour les faire taire. Et donc, le droit français a été assez précurseur sur cette question-là, avec la loi de 2006, et une directive de l'Union européenne a repris une grande partie de la législation française est venue protéger les lanceurs d'alerte au sein de l'Union européenne. Cette directive n'est pas parfaite, bien entendu, et c'est aussi dommage qu'elle ne soit pas appliquée au-delà des frontières de l'Union européenne, parce que c'est vrai qu'on constate notamment dans beaucoup de pays africains, ou de pays en Asie, que les lanceurs d'alerte sont toujours stigmatisés et parfois sont encore victimes de persécutions.
Ok, vous avez parlé également de la liberté de la presse lors des perquisitions, c'est toujours d'actualité. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu des avancées sur ce sujet?
Alors sur la question de la liberté de la presse, on est toujours un peu une recherche d'équilibre entre liberté d'expression et puis ce besoin d'effectivité des enquêtes. Il y a eu des avancées en France, notamment avec la protection des sources, qui a été consacrée dans la législation. Mais c'est vrai qu'on a quand même toujours certaines craintes au niveau de certains journaux. Et je pense que c'était l'année dernière, il me semble, qu'il y avait eu des perquisitions au sein de Mediapart et d'autres maisons de médias. Donc c'est toujours d'actualité. Et puis sur la liberté d'expression, il y a aussi d'autres questions qui se posent, hein, notamment l'interdiction faite d'enregistrer lors de manifestations ou autres événements l'activité des forces de police. Ça pose quand même une grosse question en matière de liberté d'expression. Enfin, il y a quand même encore des questions qui se posent en France, notamment sur la question de la liberté d'expression. Et c'est une question qui ne se pose pas qu'en France, bien entendu.
Ok. Dans votre vie précédente, avant d'être avocate, vous avez travaillé notamment sur la création des modules de formation, notamment dans différents droits. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit?
Alors oui, j'ai été amenée notamment à travailler justement avec des journalistes sur la création de modules de formation sur la couverture médiatique qui pouvait être faite de processus électoraux. Donc ça, c'est un travail assez intéressant pour donner des outils à des journalistes de fournir une information impartiale, objective, et pour permettre aux citoyens de faire un choix éclairé lors de processus électoraux. C'est pas toujours évident pour les journalistes parce qu'ils sont soumis bien évidemment à une très très forte pression en période de campagne électorale, et donc leur donner des outils, ça peut être quelque chose d'assez utile, et ça permet aussi qu'il y ait un cadre d'action qui soit beaucoup plus clair et des réflexes aussi qui leur permettent de donner une information mais également de se protéger en leur rappelant le droit existant également.
Ok, alors si on se tourne vers la question du contentieux, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre expérience avec la Cour européenne des droits de l'homme?
Oui, bien sûr. Alors, avec la Cour européenne des droits de l'homme, ce qui est important de rappeler, c'est quand même que la Cour est amenée à connaître des sujets très variés. Et pour illustrer ça, je veux vous parler peut-être de deux cas que j'ai devant la Cour. Donc, un premier cas, c'est le cas d'une personne d'origine nigérienne homosexuelle, et donc on sait qu'au Nigeria les personnes sont stigmatisées, régulièrement agressées et tuées par la population, et dans le nord du pays, d'où venait mon client, ces personnes risquent d'être condamnées à mort par la lapidation. Donc mon client faisait l'objet d'un arrêté d'expulsion, et donc j'ai dû saisir la Cour européenne des droits de l'homme en urgence pour demander une mesure provisoire, c'est-à-dire demander à ce que l'État français suspende l'exécution de la mesure d'éloignement qui avait été prise contre mon client. Et donc la Cour a fait droit à la demande et mon client a donc pu envoyer un dossier plus complet dans lequel il a pu invoquer notamment une violation de l'article 3 de la Convention, c'est-à-dire l'interdiction des traitements inhumains et dégradants. Donc voilà un type de dossier qu'on peut avoir devant la Cour. Mais un autre dossier que j'ai actuellement, c'est le dossier d'une personne âgée placée sous curatelle, qui a fait une donation de son vivant et à l'égard de certaines personnes de sa famille. Et lorsque cette personne est décédée, et bien les membres de sa famille qui n'étaient pas d'accord avec ce testament ont demandé l'annulation des testaments. Elles l'ont obtenue. Les juridictions nationales ont considéré que la personne qui était placée sous curatelle n'avait pas la sanité d'esprit suffisante pour lui permettre de consentir librement à ces donations. La question qui est posée aujourd'hui devant la Cour, c'est celle de savoir si le simple fait d'être placé sous curatelle peut justifier qu'une personne soit privée de son droit à faire un testament, puisque le droit français prévoit que les personnes placées sous curatelle peuvent librement tester. C'est bien la question de la violation de l'article 1er du protocole additionnel de la Convention, qui protège le droit à la propriété, la question de l'article 8 qui protège le droit à la vie privée et familiale, et également la question de l'article 14 qui interdit toute discrimination.
Ok. Et je voulais vous poser quelques questions sur un cas récent, une décision du 17 avril qui parlait de l'application de la Charte sociale européenne. Dans le cas du traitement par la France des personnes handicapées, est-ce que vous avez quelques précisions à apporter sur cette affaire ?
Sur cette affaire, en fait, c'est des associations qui ont saisi le Conseil de l'Europe au motif que la France reste encore très largement inaccessible pour les personnes handicapées, inaccessible au niveau des services publics, c'est-à-dire qu'il y a encore de nombreux bâtiments publics comme des mairies ou autres qui sont encore inaccessibles pour les personnes handicapées, mais également tout ce qui est transport, notamment en région parisienne. Le service de métro reste largement inaccessible et également une inaccessibilité au niveau des logements. Il y a très peu de logements qui sont adaptés pour les personnes handicapées. Donc c'est en cela le Conseil de l'Europe a donné droit en fait à ces associations en considérant qu'effectivement la France ne satisfaisait pas à toutes les obligations qui étaient imposées par le droit international et qu'il y avait une discrimination qui était fondée sur le handicap en raison de l'inaccessibilité de beaucoup de choses en France.
Oui, alors selon vous, qu'est-ce qui explique ce retard en France par rapport à la prise en compte de l'handicap ?
Alors, c'est une très très bonne question. Alors, premièrement, j'imagine que c'est une volonté politique parce que il y a un texte qui avait été voté, alors je ne sais plus exactement de quelle année, mais qui rendait obligatoire cette adaptation de tous les logements, de tous les bâtiments, il me semble pour 2005, et la loi ne cesse de repousser la date d'entrée en vigueur de cette législation. Donc on a quand même un législateur qui se satisfait du fait que beaucoup de choses sont encore inaccessibles pour les personnes handicapées. Il y a peut-être également une question de ressources, mais et on dit que c'est quelque chose qui devrait prendre du temps ou autre, mais c'est vrai qu'il y a une comparaison intéressante qui a été faite entre Paris et Londres. À Londres, qui est quand même une très grande ville avec un réseau ferroviaire et un réseau de métro qui était assez ancien, à Londres, on a quand même réussi à adapter tout ce réseau de transport et la ville est globalement praticable pour des personnes handicapées, alors que Paris n'est encore pas praticable pour des personnes handicapées. Donc je pense qu'il y a quand même un gros problème de volonté politique au-delà de tous les autres arguments qui sont avancés.
Est-ce que vous avez d'autres exemples de cas que vous avez eus ou dont vous avez connaissance devant la Cour européenne des droits de l'homme par rapport aux questions des droits économiques et sociaux notamment ?
Alors, oui, il y a une question qui est très importante que je n'ai pas, pour laquelle je n'ai pas encore saisi la Cour, mais quelques dossiers là-dessus devant les juridictions nationales. C'est la question de l'accès des enfants handicapés à l'éducation, qui pose toujours problème en France. On a beaucoup de personnes handicapées pour lesquelles il n'y a aucune solution de scolarité, que ce soit en école inclusive, en école spécialisée ou en IME. Et on a de nombreux enfants qui n'ont tout simplement pas accès à l'éducation. Alors la Cour européenne des droits de l'homme est venue sanctionner la France déjà sur cette question-là. Pour autant, rien n'a été fait. Et donc, c'est une question, à mon avis, qui risque encore de poser problème en France dans les années à venir.
Oui, vous pensez que l'obligation de scolarité s'étend à tous les enfants, y compris ceux qui auraient quelques difficultés de l'apprentissage ?
Bien sûr, elle doit s'étendre à tous les enfants, y compris ceux qui ont des problèmes d'apprentissage. Et la question se pose de manière plus forte pour les enfants autistes. C'est sur cette question-là que la Cour est venue préciser sa position. Mais un enfant autiste doit, comme tous les autres enfants, pouvoir accéder à l'éducation. Alors que ce soit pas forcément dans une école classique, parce qu'on sait que ça peut être très très difficile pour les enseignants de gérer un enfant autiste s'il n'y a pas d'AVS, par exemple, ou s'il n'y a pas suffisamment de personnes pour gérer l'enfant et le reste de la classe. Mais il faut qu'il y ait quand même beaucoup plus de structures qui soient créées pour de structures adaptées, qui soient créées pour accueillir les enfants autistes afin de leur permettre d'augmenter leur niveau d'autonomie et afin de leur permettre qu'ils aient des chances de devenir des personnes autonomes dans le futur. Parce que ces enfants qui restent là à la maison de 6 ans à voire plus à 20 ans et autres, et après à la majorité, c'est des enfants qui ont un avenir quand même très très sombre devant eux.
Tout à fait. Alors la question annexe à l'éducation, c'est peut-être celle du travail. Est-ce qu'il y a suffisamment de politiques mises en place pour favoriser l'inclusion au travail ?
Alors, il y a des politiques qui sont mises en place pour favoriser l'inclusion au travail, mais il y a une grosse question d'exécution de ces politiques. On sait qu'il y a des quotas au sein des entreprises, mais on sait que il y a énormément d'entreprises qui ne respectent pas ces quotas et il n'y a pas beaucoup de sanctions qui sont prises contre ces entreprises. L'autre question que ça pose, hein, parce qu'il ne faut pas non plus stigmatiser les entreprises, c'est la question du financement. Parce que effectivement, pour qu'une entreprise puisse embaucher des personnes handicapées, ça dépend évidemment de l'handicap, mais parfois il y a des besoins d'aménager des locaux, il y a besoin d'aménager la structure, l'organisation du planning, et ça peut avoir des coûts pour les entreprises, surtout pour les petites entreprises, et ça constitue immanquablement un frein à l'accession à l'emploi des personnes handicapées. Et donc il faudrait aussi qu'il y ait un accompagnement financier peut-être, mais également peut-être aussi juste de personnes ressources qui puissent aider les chefs d'entreprise à rendre leur entreprise accessible à des personnes handicapées.
Ma dernière question concerne la mise en application des sanctions de la Cour européenne des droits de l'homme. Nous avons évoqué plusieurs dossiers dans lesquels la France a été condamnée ou risque d'être condamnée à l'avenir. Comment la France respecte ou non les sanctions de la Cour européenne des droits de l'homme, et est-ce que vous estimez que c'est suffisant?
Alors ça dépend des sujets. La France n'est pas le pire élève, bien évidemment, puisqu'il y a d'autres pays qui respectent nettement moins les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, comme j'imagine la Turquie, la Russie avant d'être suspendue. Il y a quand même des dossiers sur lesquels la France ne cesse de se faire sanctionner. C'est le dossier de la surpopulation carcérale, les questions de rétention des enfants mineurs qui ne cessent de faire l'actualité. La question, par exemple, de l'accès aux enfants autistes à l'éducation. Donc il y a des sujets sur lesquels la France ne cesse de se faire rappeler à l'ordre par la Cour européenne des droits de l'homme, et pourtant, rien ne change. Il y a quand même des problèmes qui persistent.
Merci beaucoup, Maître Favrel, d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'était très éclairant.
Merci pour votre invitation.
Merci beaucoup.
À bientôt, au revoir.
Merci. On finit avec une note musicale.
High above the chimney top, that's where